Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Sa belle voix grave ne résonnera plus. Michel Bouquet est mort à 96 ans. Le théâtre était son royaume, mais ce fut aussi un immense acteur de cinéma. On va revenir sur son parcours et sur l'émotion de ceux qui l'ont côtoyé. Au procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam explique ce soir pourquoi il a renoncé à déclencher sa ceinture explosive. Nous serons en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. L'actualité, c'est encore Marine Le Pen en quête de crédibilité à 11 jours du second tour de l'élection présidentielle. Elle détaille aujourd'hui ses propositions de politiques étrangères, se défend de tout lien de dépendance avec la Russie tout en ouvrant la voie à un rapprochement avec Moscou au sein de l'OTAN. L'Ukraine, le pays entier, est une scène de crime, dit le procureur de la Cour pénale internationale à Boutcha. Et puis, une réserve de vagues, c'est la première en France qui va voir le jour dans le Morbihan parce que c'est un bien commun trop méconnu. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien dans la peau d'un électeur de Mélenchon ce soir qui sent bien que les deux candidats restants ont besoin de son vote, ce sont les hommes et les femmes les plus dragués de France, dont certains ont encore besoin de temps, d'un temps de digestion. C'est peut-être votre cas. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il avait la passion des mots et des grands textes, la voix d'une telle intensité qu'il pouvait tout jouer. Plus de 800 fois, Michel Bouquet est monté sur scène pour incarner ce roi qui se meurt.
Ils vont rire, ils vont bouffer. Ils vont danser sur ma tombe. Oh, je n'aurais jamais existé. Oh. 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 Qu'on se souvienne de moi. Que l'on pleure, que l'on désespère, que l'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur, que tous la revivent, que les écoliers...
Inoubliable, Michel Bouquet dans Le Roi se meurt de Jeanne Ionesco, où lyrisme tragique côtoie les pitreries. Bonsoir Corinne Pellissier, chef du service culture. Michel Bouquet est mort aujourd'hui à 96 ans. Et il y a 5 ans encore, il était sur les planches dans le Tartuffe, mis en scène par Michel Faux, et il était impressionnant.
Ah, il fallait voir Michel Bouquet sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le rôle d'Orgon, littéralement transporté. Portait allant même jusqu'à souffler parfois la réplique à son partenaire Michel Faux dans le rôle de Tartuffe. Performance quasi héroïque pour ce monstre sacré qui avait soufflé à l'époque déjà ses 90 bougies. Une intensité, une passion pour les textes et les auteurs jamais taris. C'est ce que retiendra lui, entre autres, son ancien élève, heureux et troublé ce soir d'avoir été le dernier à diriger Michel Bouquet sur scène.
C'est mon professeur il y a 30 ans, Michel Bouquet au conservatoire. Et puis je le voyais régulièrement, et puis il m'avait dit « tu devrais jouer Tartuffe ». J'avais dit « mais oui, mais si vous faites Orgon ». Il m'a dit « ben d'accord, je le fais ». Donc du coup, voilà, après, on voulait faire la même chose, servir l'audace de Molière, quoi. Et il était enchanté par l'esthétique du spectacle, par la distribution. C'était héroïque à 91 ans de jouer ce rôle qui est très lourd d'Orgon, parce que Tartuffe, il arrive qu'au troisième acte, mais Orgon, il est là tout le temps. C'est quelqu'un de très impressionnant et de très déconcertant, et donc je regrette, j'ai été bête, j'aurais dû plutôt lui proposer de faire des spectacles, mais je ne vais vraiment pas, j'aurais jamais cru, quoi, en fait. C'était exceptionnel, oui, bien sûr.
Et le théâtre hein, qui fut la passion de la vie de Michel Bouquet, Corinne.
Figurez-vous que c'est sa mère qui lui avait donné enfant le goût du théâtre. Ils allaient ensemble voir des pièces à l'Opéra Comique avant qu'il ne devienne, bien des années plus tard, le compagnon de route d'Albert Camus, de Jean Anouilh, ou qu'il ne révèle à la France le dramaturge Harold Pinter. Michel Bouquet, amoureux du texte, on l'a dit, au service des auteurs dont il se voyait le porte-parole, totalement dévoué à son art de ses 75 ans passés sur les planches. On retiendra bien sûr Ionesco, Le Roi se meurt, qui l'aura joué plus de 800 fois, aux côtés de son épouse Juliette Carré, en Reine Marguerite, et puis Molière, bien sûr, Tartuffe, l'avare, le malade imaginaire, une endurance, une ténacité, un sens de la nuance qui allait bien au grand texte classique. Michel Bouquet qui disparaît, ça ne s'invente pas l'année où l'on célèbre les 400 ans de Molière.
Et puis il y a eu le cinéma, Corinne, il ne s'est jamais considéré comme un acteur intéressant, mais il y a quand même une carrière tout aussi inoubliable.
Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. J'ai faim. Vous ne voulez pas manger un croissant ? On va tâcher de trouver une boulangerie.
Et sans doute l'une des images les plus fortes qui resteront gravées dans notre mémoire de cinéma. Michel Bouquet sous les traits de François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, pour lequel il avait remporté son deuxième César en 2005. Lui qui aimait au cinéma les rôles qui nous bousculent, qui nous font progresser tout en relatant l'absurdité de nos vies. Il avait souvent joué les méchants, les austères chez Chabrol, chez Truffaut, La Femme Infidèle, Poulet au Vinaigre, La Sirène du Mississippi ou encore La Mariée était en noir.
Michel Bouquet aura porter la littérature et l'art dramatique à leur plus haut degré d'incandescence et de vérité. Salut le chef de l'État. Vincent Jossin lui rendra hommage. Ce soir sur France Inter, 2 heures d'émission spéciale de 20h à 22h et demain à 9h10, rediffusion de l'interview de Michel Bouquet par Augustin Trapenard pour Boomerang, c'était en 2014. Le comédien disparu aujourd'hui à 96 ans.
Et à 19h06, Hélène, au procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam a donc encore des choses à dire.
C'est sa dernière occasion de s'exprimer sur les faits. Hier et aujourd'hui, on a entendu ceux qui l'ont aidé dans sa cavale. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Hélène.
L'interrogatoire du principal accusé a repris il y a peu et contrairement à la dernière fois, il parle y compris de la soirée du 13 novembre.
Exactement, Salah Abdeslam, polo bleu à rayures blanches, veste noire, retire son masque, laisse apparaître sa barbe fournie et se met à parler d'une voix très calme, presque douce. On a cette image qui a été faite de moi dans les médias depuis plus de 6 ans, cette image qui ne correspond pas à ce que je suis, alors j'ai décidé de m'exprimer. Ce qui était prévu pour moi, c'est que je reparte en Syrie après avoir loué des choses, c'est ce que m'avait demandé mon frère Brahim. Mais le 11 novembre, à Baoud, il me dit qu'il y a un projet d'attaque en France, il me dit que je vais devoir porter une ceinture et me faire exploser. Dans ma tête, c'était un choc pour moi. Mais il va finir par me convaincre et je vais finir par accepter. J'ai dit « Ok, je vais y aller ». Salah Abdeslam raconte que le soir du 13 novembre 2015, après avoir déposé le commando au Stade de France, il se rend vers l'objectif qu'on lui a donné, un café dans le 18e arrondissement de Paris. Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et j'ai dit « Non ». « Je vais pas le faire », déclare ce soir Abdeslam. Il décrit ensuite un état d'errance jusqu'à sa voiture. Il affirme qu'il a roulé, puis qu'il est tombé en panne, laissant sa Clio mal garée, achetant un téléphone. Puis il a pris un taxi vers Montrouge et jeté sa ceinture. C'est là que j'ai essayé de trouver un endroit discret. J'ai enlevé le bouton poussoir, j'ai retiré la pile pour soi. Poursuit Abdeslam presque essoufflé. Il parle sans s'arrêter depuis 3 quarts d'heure, très concentré. C'est ma vérité, dit-il.
La vérité de Salah Abdeslam pour la première fois racontée de cette manière devant la cour d'assises spéciale de Paris. Sophie Parmentier avec Frédéric Kérou en direct et le compte-rendu quotidien à retrouver également sur franceinter.fr.
La campagne électorale à 11 jours du second tour. Les deux finalistes égrènent et amendent leurs propositions.
Marine Le Pen, très attendu aujourd'hui face aux journalistes sur ses propositions en matière de politique étrangère. La plupart des grands médias internationaux étaient là pour l'interroger sur sa proximité avec Vladimir Poutine, sur la distance qu'elle revendique avec l'Union européenne. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Et ses propositions ont quelque peu désarçonné nos confrères étrangers.
Oui Hélène, les correspondants de la presse étrangère étaient quelque peu perplexes après la présentation de la vision diplomatique de Marine Le Pen qui a répété qu'elle ne souhaitait pas une sortie de l'Union européenne tout en annonçant qu'elle comptait réduire la contribution française de 5 milliards d'euros. Marine Le Pen veut une sortie du commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'alliance. Pour Arzu Morin de CNN Turc, la candidate du Rassemblement National a manqué de clarté.
Elle n'a pas beaucoup parlé de l'Ukraine. Elle a essayé d'échanger ses points de vue sur la Russie, sur l'Europe, tout ça. Elle a essayé de quand même adoucir un petit peu sa position vis-à-vis de l'Union européenne et la Russie. Et je pense qu'elle n'est pas assez claire sur sa vision du monde. J'ai pas trouvé assez clair.
Quant au couple franco-allemand, la diplomatie de Marine Le Pen promet quelques scènes de ménage entre Paris et Berlin, anticipe déjà Britta Sandberg du magazine Der Spiegel.
Si je la comprends bien, elle va mettre un stop tout de suite, un arrêt tout de suite à tous les projets de défense. Enfin, ceux qui existent déjà, et on sait que maintenant il y en avait d'autres qui étaient en voie, en développement. Elle ne va pas soutenir l'ambition de l'Allemagne d'avoir un siège à l'ONU. Enfin bon, moi je crois que pour elle, ça s'arrête à la coopération économique, tant qu'elle est dans les intérêts français et culturels.
car Marine Le Pen affirme vouloir mettre sa diplomatie au service des intérêts français dans le monde, qu'elle considère affaiblie dans l'Union européenne et diluée dans le multilatéralisme.
Christian Chesneau, conférence de presse brièvement interrompue tout à l'heure quand une photo de Marine Le Pen avec le président russe Vladimir Poutine a été brandie par une militante écologiste. La jeune femme brutalement plaquée au sol est tirée hors de la salle. Une campagne de second tour qui a donc commencé tambour battant, pose de rigueur tout de même aujourd'hui pour la proclamation des résultats officiellement validée tout à l'heure par le Conseil constitutionnel, son président Laurent Fabius.
Conformément à l'article 7 de la Constitution, et puisque l'un et l'autre m'ont confirmé par écrit qu'ils maintenaient leur candidature, ce sont donc M. Macron et Mme Le Pen qui seront candidats pour le second tour de l'élection présidentielle.
Et ils n'ont pas attendu la proclamation de ces résultats officiels pour installer ce duel à distance, les candidats qui se répondent sur chaque sujet ou presque. À Marine Le Pen qui défend l'idée de gouverner à coup de référendum, Emmanuel Macron répond dérive autoritaire, critiquant aussi la candidate quand elle assume choisir les journalistes qu'elle invite en conférence de presse. Elle lui répond qu'il a fait pareil au début de son quinquennat. Sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron défend le triplement de la prime défiscalisée jusqu'à 6 000 euros, le bouclier tarifaire et les 15 centimes de ristourne à la pompe. Pour Marine Le Pen, la proposition phare, c'est la baisse de TVA à 0% sur une série de produits de première nécessité et de 20 à 5,5 sur l'énergie. Une idée qui pourrait s'avérer contre-productive pour le think tank Terra Nova classé à gauche, Agnès Soubiran.
C'est une mesure qui rate sa cible, estime Thierry Pech, le directeur général de Terra Nova.
Quelqu'un qui roule en Porsche Cayenne sur l'autoroute à 130 km/h consomme plus d'essence que quelqu'un qui roule dans une petite citadine d'occasion. Donc les ménages modestes profiteront proportionnellement beaucoup moins d'une baisse de la TVA que les ménages les plus riches.
Des ménages qui dépensent en moyenne 1 540 euros par an pour se déplacer, 1 602 euros pour se chauffer. Une baisse de la TVA se traduirait par une économie de 341 euros par famille en moyenne, mais qui représenterait aussi un manque à gagner pour l'État d'environ 10 milliards d'euros. Et cette mesure pourrait in fine profiter aux entreprises du secteur de l'énergie.
L'entreprise peut baisser d'autant ses prix, ça c'est l'effet qui est recherché par Marine Le Pen, mais elle peut aussi élargir ses marges, décider d'investir ou décider de rémunérer ses actionnaires. Rien ne l'oblige à répercuter intégralement dans le prix de vente à la consommation la baisse de la TVA. C'est exactement ce qui s'est passé avec la baisse de la TVA sur la restauration. Les prix n'ont pas baissé, tout simplement parce que les restaurateurs ont fait un autre usage de cette marge supplémentaire.
Une baisse enfin qui aurait bien du mal à passer à Bruxelles, qui n'autorise pas un taux de TVA inférieur à 15% pour les carburants, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique.
Et sur l'écologie, les programmes des deux finalistes sont loin d'être les plus ambitieux. Emmanuel Macron qui cherche à séduire à gauche, reprenant d'ailleurs ce matin les propositions d'Yannick Jadot en matière d'économie circulaire et l'idée de planification écologique de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cela suffira à convaincre les électeurs du troisième homme de cette campagne? Comme il y a 5 ans, la France Insoumise consulte ses soutiens, 300 000 personnes depuis ce matin. Abstention, vote blanc ou Emmanuel Macron au choix, pas Le Pen. Le résultat de cette consultation sera rendu public samedi soir. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Mais Jean-Luc Mélenchon insiste aujourd'hui, quel que soit le résultat, il ne se transformera pas en consigne.
Oui, Jean-Luc Mélenchon est un peu coincé. Il avait promis un vote, celui-ci doit donc se tenir. Mais la situation de 2017 est très différente de celle de 2022. En témoignent les sondages, cette fois en cas de forte abstention, Marine Le Pen pourrait l'emporter. Ce que votera l'insoumis à titre personnel, il ne le dira pas, mais il se fend d'une lettre pour expliquer l'enjeu à ses soutiens. Je cite, « Ce second tour de l'élection présidentielle se fait en nous interdisant tout vote d'adhésion. Il exclut nos projets, notre vision du futur, une présidence sans autorité morale en sortira. » Alors il insiste, cette opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est pas à la hauteur des problèmes du pays. L'un et l'autre laisseront continuer la spéculation, refuser le retour à la retraite à 60 ans. Et puis surtout, aucun des deux ne prend en compte l'alerte écologique et nucléaire. Toutefois, il le répète, l'un et l'autre ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au progrès de maltraitance sociale, je cite, qu'elle partage avec Emmanuel Macron, un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Alors très fermement, il réaffirme, pas une voix ne devra se porter sur la candidate d'extrême droite. Ça n'est de toute façon pas une option du questionnaire, vous l'avez dit. Mais la crainte est qu'en majorité, les insoumis votent l'abstention. Nul doute que la Macronie, en cas d'échec, lui fera payer cher son absence de consigne personnelle.
Laurence Perron et dernier écho de campagne du jour sur le programme numérique d'Emmanuel Macron. Il appelle dans une interview au Point à plus de régulation des grands acteurs du numérique, allant jusqu'à évoquer le possible démantèlement, notamment de Meta ou Google. C'est un article à lire sur franceinter.fr.
Le procureur de la Cour pénale internationale, Hélène, est en Ukraine.
Pour que la justice internationale puisse passer pour enquêter sur ces probables crimes de guerre, le président américain parlait hier soir de génocide. Jean-Marc Faux en parlait il y a quelques minutes. Le poids des mots aussi dans la bouche du procureur de la CPI, le britannique Karim Khan, qui était à Boutcha, près de Kiev aujourd'hui. Pour lui, l'Ukraine tout entière est une scène de crime. Franck Madvon.
Nous devons transpercer le brouillard de la guerre. Ce sont les mots du procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan. Le brouillard de la guerre, la célèbre expression du général prussien Clausewitz, traduit bien la difficulté de mener des enquêtes dans des zones de conflit comme en Ukraine, où les preuves manquent. Aujourd'hui à Boutcha, Karim Khan a insisté sur la nécessité de séparer la vérité de la fiction. Moscou assure que les accusations de meurtre de civils par les soldats russes ont été montées de toutes pièces. Une équipe médico-légale de la CPI se prépare à travailler sur place pour récolter des éléments tangibles, autopsies, témoignages, toute information permettant d'alimenter des dossiers d'accusation pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Karim Khan a annoncé le 2 mars l'ouverture d'une enquête de la Cour pénale internationale sur la situation en Ukraine. Le travail des équipes de la CPI apparaît encore plus urgent après les tragédies mises au jour récemment, notamment les tueries de civils dans les localités au nord de Kiev.
Et à Mariupol, les forces russes maintiennent la pression. Plus d'un millier de soldats ukrainiens se seraient rendus, selon Moscou. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces terribles inondations en Afrique du Sud. Après plusieurs jours de pluie, plus de 250 victimes. Le président Ramaphosa a passé la journée à la rencontre des habitants. Romain Chanson est à Johannesburg.
Cyril Ramaphosa a été accueilli par des pleurs. Le président a présenté ses condoléances à une famille qui a perdu 4 enfants dans l'effondrement de leur maison. Les parents ont dit au chef de l'État sud-africain qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour enterrer les 4 corps. Les officiels de la province demandent que soit déclaré le statut de catastrophe naturelle pour débloquer des fonds. Des ponts ont été pulvérisés, des maisons en tôle balayées, des usines inondées et leurs containers éparpillés. La région de Durban a été l'épicentre de la tempête. Des records de précipitations ont été enregistrés à plusieurs endroit. Un nouveau coup dur pour l'économie de la région, déjà durement touchée par une semaine de pillage lors d'émeutes en juillet 2021. Ces inondations dépassent celles d'avril 2019 qui avaient fait 85 morts durant le week-end de Pâques. Pâques, c'est dimanche et de fortes précipitations sont encore annoncées pour ce week-end. Johannesburg, Romain Chanson, France Inter.
En Égypte, dans le secteur touristique du sud, un accident de car a fait 10 morts aujourd'hui, dont 4 Français. Et puis, en bref, encore après la mort de Jérémy Cohen, percuté par un tramway à Bobigny après avoir été agressé par un groupe de jeunes mi-février. 2 personnes ont été placées en garde à vue. Des perquisitions en cours également dans l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord ainsi qu'au siège social de Nestlé France à Issy-les-Moulineaux. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 50 cas confirmés ont été identifiés de contamination à la bactérie Escherichia coli avec les pizzas Fresh Up. Des enfants pour la plupart. 2 sont décédés. Quand on pense à la protection de la nature, on pense aux animaux, on pense aux plantes, et pourquoi ne penserait-on pas aussi aux vagues? Sont-elles les mêmes qu'il y a 10, 50 ou 100 ans? C'est un bien commun méconnu, défendent les membres de l'association France Hydrodiversité qui, en Bretagne, ont décidé de défendre la première réserve de vagues. Le conseil municipal de Saint-Pierre-Quiberon les soutient, c'est un projet unique, un projet pilote en France, pour que dans un endroit défini, on les préserve de toute intervention humaine. Et que défend Erwan Simon, le président de France Hydrodiversité.
La richesse des vagues en France est exceptionnelle. C'est clairement un des hotspots sur Terre. Et l'idée, c'est de préserver les vagues qui sont remarquables. Et à la côte sauvage de Saint-Pierre-Quiberon, les fonds sous-marins, l'orientation, la géographie, la distribution des bancs de sable en font un lieu où les vagues sont vraiment remarquables. Donc l'idée, c'est de préserver ces vagues pour qu'elles puissent continuer à déferler naturellement dans les années et les décennies à venir.
C'est pas qu'un plaisir de surfeur que vous cherchez à préserver?
C'est pas du tout juste un plaisir de surfeur. L'hydrodiversité, c'est beaucoup plus large. Tout d'abord, D'abord, ça a un intérêt environnemental, hein, puisque les vagues sont là pour oxygéner, dynamiser et faire vivre les écosystèmes marins. C'est également un atout touristique, hein. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent à Quiberon, mais aussi d'autres endroits comme La Torche, à Biarritz, à Nazaré, pour observer le spectacle des vagues. Il y a également aussi de grandes légendes historiques, par exemple en Polynésie, autour des vagues. Donc c'est vraiment quelque chose à la fois environnemental, humain, culturel, mais aussi pour le surf, c'est très important, bien sûr.
Ah, et lui-même est surfeur, hein, on pourrait le dire, Erwan Simon, le président de France Hydrodiversité, forcément amoureux des vagues, au micro de Sophie Becherel.
Et Hélène Philippe pour le journal. Merci beaucoup Hélène, on se retrouve demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. Nous revenons ce soir sur ces 22% de lecteurs tellement sollicités qui n'ont parfois pas encore décidé quel sera leur choix du dimanche 24. On jette un œil sur le ciel avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Sébastien Léas, des grisailles le matin, mais l'après-midi sera plus ensoleillé.
Oui, entre des nuages bas et des plaques de brouillard présents sur un large quart nord-ouest et les restes de la perturbation qui s'enfoncent sur le pays depuis hier et qui traîneront encore demain entre les Pyrénées, la Champagne et l'Alsace. Le début de journée sera par moments assez gris. Ces grisailles et nuages résiduels vont se disperser plus ou moins rapidement. Le temps deviendra bien ensoleillé l'après-midi. Le long des côtes de la Manche, la dissipation des nuages sera quand même plus difficile. Des plaques de grisailles pourront même rester tenaces l'après-midi. Entre le Languedoc, le Roussillon, la Provence et la Corse, le soleil s'imposera plus rapidement. Un voile de nuages élevés va quand même venir blanchir un peu le ciel, notamment vers la Côte d'Azur et la Corse. Sur le relief de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord-est, les nuages vont bourgeonner l'après-midi. Ils pourront donner naissance à des averses. Ces averses pourront même tourner à l'orage, notamment sur le Jura et les Vosges.
Et ambiance sinon de plus en plus douce, Sébastien.
Oui, hormis près des côtes de la Manche, sur les plages de l'Atlantique et sur les hauteurs, évidemment, les températures maximales dépasseront la barre des 20 degrés quasiment partout. Prévoyez 20 degrés à Valenciennes et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Paris, Tours et Metz, 22 degrés pour Nantes, Rennes, Dijon, Mulhouse, Agen, Perpignan ou encore Ajaccio. On ira jusqu'à 23 degrés à Lyon et Montpellier, 24 degrés à Narbonne et Draguignan, 25 degrés à Aix-en-Provence. Il fera même jusqu'à 26 degrés à Carpentras, mais seulement 13 degrés à Dieppe et 17 degrés à Perros-Guirec.
Et merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.